Bon, commençons par la prière et puis je voudrais reprendre notre étude dans 1 Timothée 3 et nous allons terminer le chapitre 3 aujourd'hui avec 3 versets 14 à 16. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce qui nous réunit encore aujourd'hui et vraiment c'est un privilège. Sachant que cet évangile n'est pas connu par beaucoup, mais nous savons que tous ceux en qui tu œuvres, en qui ton esprit œuvre pour révéler le Christ de la Bible en eux, ceux-là se réjouissent en écoutant l'évangile et se réjouissent aussi dans cette fraternité, cette communion que tu nous donnes par ton esprit. Alors je te prie, Seigneur, de bénir ces moments dans ta parole, sans l'aide de ton esprit, sans que ton esprit nous donne des yeux pour voir. Aucun ne pouvait comprendre ou saisir ce qui est écrit. Alors, je demande ô Seigneur, que tu nous donnes encore ton esprit afin de pouvoir approfondir cette parole et avant tout de voir ce qui est révélé au sujet de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en qui est tout notre salut. Alors, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions aussi pour ces occasions et que toi-même tu nous diriges en tout ce que nous entreprenons. Et c'est dans le saint nom de ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur, que nous te prions. Amen. Alors, comme je disais, nous allons prendre seulement trois versets aujourd'hui pour terminer notre étude dans 1 Timothée chapitre 3. Nous avons déjà vu les instructions données à travers l'apôtre Paul en ce qui concerne la dirigeance dans l'assemblée. Et nous avons vu qu'il y a deux sortes de rôles que Dieu a ordonnés pour la dirigeance de l'assemblée. Il y a les évêques, où on peut aussi dire les anciens spirituels, ce n'est pas seulement des anciens en âge physique, mais des anciens spirituels, ceux qui sont capables de diriger l'assemblée et garder l'ordre pour la gloire de Dieu, les hommes qui sont sages. Et ça, c'est à la suite de ce que nous avons vu concernant les femmes, que les femmes doivent rester dans le silence en ce qui concerne l'enseignement et la dirigeance dans l'assemblée. Ce n'est pas leur rôle. Ici, il s'agit des hommes. Et je sais que ça, ce n'est pas une doctrine populaire aujourd'hui, où les gens prêchent l'égalité entre l'homme et la femme, mais en ce qui concerne la dirigeance de l'Église, en ce qui concerne l'hiérarchie que Dieu a ordonnée, comme Christ est à la tête de son Église, l'homme est aussi à la tête de son foyer. Et la femme doit rester en soumission de la même manière que l'Église est soumise à Christ. Alors voilà pourquoi c'est ainsi. Ce n'est pas parce que des femmes n'ont pas de raisonnement ou que les femmes sont des êtres qui sont moins que les hommes. Ce n'est pas dans ce sens. Les femmes, en Christ, il n'y a pas de distinction. Homme comme femme. Ça a pris le même sang de Christ pour racheter un homme que de racheter la femme. Mais en ce qui concerne l'Église et l'ordre dans l'Église, alors cette responsabilité est donnée aux hommes, mais aux hommes spirituels, qui sont ici appelés des évêques. Le mot veut dire simplement surintendant. Et aussi des anciens, ceux qui sont des hommes mûrs dans l'évangile. C'est ça le problème dans beaucoup d'organisations qu'on appelle église. Il y a le désordre parce que, premièrement, l'évangile n'est pas prêché. Ce qui se passe, les activités sont fondées sur des activités d'hommes et des traditions d'hommes et non pas la parole. Mais en ce qui concerne la Bible, là où l'évangile est prêché, il s'agit des assemblées où il y a des hommes que Dieu lui-même suscite, des hommes spirituels, des hommes qui sont dirigés par l'Esprit eux-mêmes. Et alors, le Seigneur bénit. Donc, on a vu ça, il y a les évêques, mais il y a aussi des diacres. Et peut-être ça, c'est le point qui est beaucoup plus différent qu'on a l'habitude parfois de voir dans des milieux évangéliques où les diacres sont souvent des hommes qui s'occupent des besoins dans l'assemblée. Souvent ce sont des hommes qu'on a vu la dernière fois politiques. Et ils sont nommés à cause de leur influence dans la communauté, etc. Mais dans la Bible, les diacres doivent être des hommes qui sont, le mot veut dire ministres. Ils sont des hommes qui prêchent l'évangile. Et nous avons vu ça déjà dans le verset 9. Conservant le mystère de la foi dans la conscience pure. Cela veut dire des hommes qui prêchent l'évangile et qui vivent selon cet évangile. Non seulement eux, mais aussi leurs femmes. Parce que verset 11 dit, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Là où Dieu œuvre, il y a vraiment de l'ordre. Quand on constate le désordre dans les assemblées, c'est à cause du fait que d'abord l'évangile n'est pas prêché, mais ensuite les hommes suivent les traditions des hommes. Si réellement une assemblée est dirigée selon les principes de la Bible et selon l'enseignement que nous voyons ici, et il faut se rappeler que cette parole que nous étudions, c'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et c'est impossible de suivre ce que la Bible instruit et avoir le désordre. Le désordre vient toujours au niveau de l'homme à cause du péché de son cœur et à cause des traditions de l'homme. Alors, même ici, parce qu'il faut, savoir où il y a des pécheurs, il y aura le désordre. Alors, quand des problèmes surgissent, même dans nos assemblées où nous sommes en train de prêcher l'évangile, nous ne devons pas nous baser sur le raisonnement humain, ou la sagesse humaine, mais nous devons toujours regarder dans la parole et voir l'instruction que donne la parole de Dieu pour la résolution de chaque situation. C'est vrai dans l'assemblée, c'est vrai dans le foyer, c'est vrai dans nos vies personnelles. Cette parole, comme elle-même elle dit, est une lampe pour illuminer le chemin de ceux qui sont au Seigneur. Alors, ayant dit tout cela, nous arrivons maintenant au verset 14 de 1 Timothée chapitre 3, où Paul, bien sûr, il écrit c'est écrit, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Il faut se rappeler que Paul était en prison au moment où il écrivait cette première épître à Timothée. Et nous savons qu'il y avait un moment où il était relâché de prison. Et le Seigneur lui a donné l'occasion d'aller encore prêcher l'évangile librement pendant un certain temps. Mais quand on arrive maintenant à la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est en ça que nous voyons que Paul était de nouveau emprisonné, et surtout à cause de la prédication de l'évangile. Mais il n'a jamais été relâché après cette deuxième fois qu'on l'a mis en prison. Il est resté là jusqu'à ce qu'ils l'ont exécuté. Il a été décapité. C'est comme ça que Paul est mort. Mais ici, il démontre le désir, par la grâce de Dieu, selon la volonté de Dieu, il dit là avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Quand un enfant de Dieu parle de l'espérance ou l'espoir, ce n'est pas comme le monde parle. Nous savons que Dieu dirige toutes choses. Alors, nous avons cet espoir ou cette confiance que si Dieu le veut, on ne doit jamais imaginer que nous pouvons imposer notre volonté sur la volonté de Dieu. Dieu ne réagit jamais selon nos plans, mais il agit toujours selon son plan. Et c'est pourquoi dans l'épître de Jacques, il nous instruise de toujours dire si Dieu le veut. Si nous disons que nous allons ici ou nous allons par là, c'est toujours si Dieu le veut. Et ça, c'est important. Nous reconnaissons même à travers ces séances que nous avons chaque samedi que si Dieu le veut, nous allons nous réunir et connecter. La technologie est bonne, mais nous savons que la technologie aussi fait faute. Alors, les coupures et même dans la vie, ceux qui viennent nous écouter, nos déplacements, tout cela, c'est selon la volonté de Dieu. Il faut jamais dire que on a échoué en quoi que ce soit. Non, on dit Dieu n'a pas voulu. Nous parlons de l'échéance, mais ce n'est pas ça. C'est que Dieu ne l'a pas ordonné. Alors, c'est avec cet esprit que Paul dit ça à Timothée, son espoir est d'aller bientôt vers lui. Mais tout est soumis à la volonté de Dieu. Alors, dans le verset 15, nous lisons, « Mais afin que tu saches, si je tarde... » Alors déjà, il voit... Tout est soumis à la volonté de Dieu. Si je tarde, parfois il y a des retardements. Dieu ordonne nos pas de telle sorte que si c'est sa volonté que nous avançons, nous avançons. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a des arrêts aussi dans la vie. Alors, il dit, si je retarde ou si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, quand il dit comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, il ne faut pas penser d'une maison de briques ou bien de ciment, quand il s'agit ici de la maison de Dieu. Il faut plutôt penser à une assemblée de croyants, de ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Voilà la maison de Dieu. C'est une manière de dire comment il faut se conduire parmi le peuple de Dieu. Parce que, il dit cela, qui est l'église du Dieu vivant. Alors, c'est le Dieu vivant, mais c'est aussi une église, et le mot église là signifie ceux qui sont appelés par la grâce de Dieu, appelés par l'Esprit de Dieu. Ceux pour qui Christ est mort et qui les a appelés, il les a fait sortir des ténèbres et ils sont maintenant à Christ dans leur cœur. Nous savons que des pécheurs que Dieu sauve ont été donnés à Christ avant le fondement du monde. Mais, et c'est pour eux que Christ est venu dans le monde donner sa vie. Mais c'est à travers le temps qu'il appelle cela. Alors ça, c'est le mot église. Alors la maison de Dieu, c'est défini par la suite. Qui est l'église du Dieu vivant? Donc nous savons déjà par là que le comportement dont il s'agit n'est pas la manière qu'il faut se comporter parmi les quatre murs d'un bâtiment. Non, il s'agit d'une conduite parmi des pécheurs qui sont rachetés par le sang de Christ, qui sont appelés ici la maison de Dieu ou l'église du Dieu vivant. Le mot vivant est important. Nous sommes morts dans le péché aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'a pas encore agi dans sa grâce de révéler Christ en nous et nous donner la vie et alors nous traduire ou transporter, si vous voulez, des ténèbres à la lumière, à cette connaissance de Christ. Alors, c'est rappelé l'Église du Dieu vivant. Alors, le point là sur lequel je pense qu'il faut insister, c'est que l'Église ne nous appartient pas. Je sais que le Seigneur nous a placés dans ces rôles de responsabilité dans l'Église, mais l'Église n'est pas à nous. Notez bien, c'est écrit, c'est l'Église du Dieu vivant. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison faite de ciment ou de briques, c'est une maison spirituelle. Et l'Église du Dieu vivant, dont Paul parle dans 1 Timothée 3:15, c'est le mot signifie être appelé de Dieu. Ceux qui sont appelés de Dieu sont appelés par l'Esprit de sa grâce et il s'agit de ceux que Dieu lui-même a choisis depuis l'éternité et donné à son Fils pour qui Christ est venu dans le monde et il a donné sa vie pour les racheter. Donc l'Église du Dieu vivant s'agit des rachetés, des élus de Dieu. Et nous voyons ça particulièrement dans Éphésiens chapitre 1, mais aussi dans 1 Corinthiens chapitre 1, où l'Église est définie comme étant un rassemblement de peuples, de gens, et non pas un bâtiment. Je sais que les gens ont souvent l'habitude de parler d'aller à l'Église, mais on ne voit jamais ce terme utilisé dans la Bible. On ne va pas à l'église. On va rejoindre l'église. On va adorer avec l'église. Mais l'église n'est pas un bâtiment. L'église s'agit d'un peuple. Je cite surtout 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 2 où Paul écrit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et puis, il définit ça par à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. mis à part en Jésus-Christ, sanctifié comment? Sanctifié par l'élection de Dieu le Père. Il a donné ce peuple à son Fils, sanctifié par sa mort. Quand Christ est mort, Christ a dit dans Jean 17, « Je me sanctifie pour eux. » Et puis sanctifié aussi par l'Esprit, quand l'Esprit appelle, il attire à Jésus-Christ. Alors, ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, et notez, appelés à être saints. Voilà l'appel. Ça, c'est le sens du mot « Église ». À être saint. Ce n'est pas une sainteté en nous-mêmes. Ce n'est pas une piété en nous-mêmes. Mais appeler à être saint signifie appeler à cette sainteté que Christ, par son obéissance complète et parfaite à la loi, à la justice de Dieu dans sa vie et dans sa mort, il a accompli ça pour ce peuple que le Père lui a donné. Alors c'est par là, ceux-là, si nous sommes de ce nombre, nous avons le privilège d'être appelés saints. Les gens ont eu mal défini la sainteté. Ils imaginent que c'est une marche que eux-mêmes ils font. Non, parce que tu sais. Vous savez, la sainteté veut dire sans péché. Il n'y a aucun homme qui peut se nommer saint de cette manière, parce que nous sommes des pécheurs. Mais il s'agit de ceux à qui la sainteté de Dieu, la justice de Dieu est imputée, c'est mis à leur compte, c'est fait pour eux. C'est ça la substitution. Si l'homme lui-même pouvait fournir et produire une sainteté à la satisfaction de Dieu, Christ n'aurait pas venu dans le monde. Ça ne serait, on peut dire qu'il est mort en vain. Si c'était parmi la possibilité, dans la possibilité de l'homme de faire quoi que ce soit. Paul lui-même a dit ça dans Galates chapitre 2, il dit « Je ne rejette pas » dans le verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, cela veut dire par une obéissance quelconque à la loi, c'est écrit, Christ est donc mort en vain. » Alors ici, quand il s'agit de l'Église, appelé à être saint, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et puis que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il s'agit là du sens de ce mot « Église de Dieu vivant ». Et nous ne sommes pas appelés à essayer de diriger les boucs. Non, notre attention est vers les brebis du Seigneur. Ça, c'est la véritable Église du Dieu vivant. Et il s'agit là des pécheurs que Dieu, dans sa grâce, a rendus à la vie, spirituellement. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Malheureusement, il y a aujourd'hui beaucoup dans la région qui ne sont pas convertis. Il y a beaucoup de prédicateurs, et c'est évident par le fait qu'ils ne prêchent pas l'Évangile. Leur message est un message d'œuvre et d'homme. Et alors, ce n'est pas de Dieu. Ici, il s'agit de l'Église du Dieu vivant. Et c'est appelé ici la colonne et l'appui de la vérité. Quand il s'agit de la colonne et de l'appui, cela veut dire que c'est à travers l'Église que Dieu fait connaître ou savoir la vérité dans le monde? Où est-ce qu'on peut mieux voir la vérité du salut en Jésus-Christ si ce n'est pas parmi ceux qui sont rassemblés que Dieu a appelés par son esprit à Christ? Cela veut dire que c'est par leur témoignage. Alors, c'est un point aussi important ici de souligner, c'est que quoique les anciens et les diacres sont établis pour garder l'ordre dans l'assemblée, cela ne veut pas dire que Dieu parle à travers eux seulement. Il y en a qui imaginent cela, que puisqu'ils sont les pasteurs ou ils sont les responsables, donc c'est à travers eux seulement que Dieu parle. Non. Chaque pécheur que Dieu a racheté par le sang de Christ et appelé à Christ est un témoin. Chacun de ceux qui l'a appelé témoigne de cette grâce. Et ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu. C'est la manière que Dieu agit en faveur des pécheurs comme nous. Et ceux qui sont appelés, par exemple l'Église, ils rendent toute la gloire à Dieu à travers Christ. C'est leur seul témoignage. Alors, c'est comme ça que l'Église du Dieu vivant se distingue de toutes les autres religions dans le monde. Nous n'avons qu'un seul message. Nous n'avons qu'un seul témoignage. Et c'est que c'est par la grâce de Dieu nous sommes ce que nous sommes. Ça, c'est un message que vous n'allez pas entendre en dehors de l'assemblée de Dieu rachetée par Christ. Et c'est pourquoi dans beaucoup de ces organisations missionnaires ou bien ce qu'ils appellent des églises, mais en fait, quand on constate que le message n'est pas le message pur de l'Évangile, et c'est fondé sur un message mixte de grâce et d'œuvre, de la loi et de la grâce, ça, ce n'est pas l'Évangile. Ceux qui adorent ou font l'effort d'adorer Dieu de cette manière démontrent déjà par leurs habitudes d'adorer qu'ils ne sont pas l'Église. Donc, il faut une coupure nette avec la religion d'homme, avec les traditions d'homme, avec un message mixte, et il faut une adoration de Dieu à travers l'Évangile simple et pur. Et cet Évangile donne toute la gloire à Dieu. En tout ce qui concerne le salut, la marche, la foi, toute la gloire revient à Dieu. Alors c'est dans ce sens que l'Église est appelée la colonne et l'appui de la vérité. Christ est la vérité. Et comment on peut reconnaître la manière qui sauve des pécheurs si ce n'est dans cette assemblée de pécheurs rachetés par le sang de Christ et sauvés par sa grâce, grâce seule? Alors, il y a beaucoup dans ces mots-là. Mais cela nous amène maintenant au verset 16, qui est le dernier que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Et ce verset nous donne la somme de la vérité dont Paul écrit à Paul dans le verset 15. Tout est lié. On a déjà vu ce qui est l'Église. On a vu que cette Église est basée, fondée sur la vérité qui est Christ. Il n'y a qu'un seul fondement. Christ lui-même est ce fondement. Son œuvre accomplie pour les pécheurs est ce fondement. Et alors, c'est verset 16 qui nous donne la somme de ça résume tout ce qui est la vérité sur laquelle l'Église est basée, est fondée. Et il y a plusieurs parties de cela, mais ça commence avec ce terme, le mystère de la piété. Alors voilà le mot mystère encore, que nous avons déjà vu dans le verset 9. Il s'agit du message, il s'agit du contenu de l'évangile que nous avons dans la parole de Dieu, qui doit être révélé. Si c'est appelé un mystère, c'est parce que c'est caché jusqu'à ce que Dieu lui-même, par sa grâce, ouvre le cœur et révèle Christ dans le cœur. Alors, après cela, on peut dire que ce n'est plus un mystère, mais ayant dit cela, je dois aussi préciser que il y a des parties de l'évangile. Un moment. Ma voix est un peu faible à cause du rhume. Ça devient sèche. Alors, le mystère, il faut dire qu'il y a des parties de l'évangile qui restent toujours un mystère. On ne peut pas dire que nous, même avec l'esprit maintenant, je ne peux pas dire que je comprends tout ce qu'il y a à comprendre, à connaître concernant Dieu, ou concernant son Fils, ou concernant sa grâce. Ça, ce sont des vérités qui sont trop profonds pour nous. Nous sommes des pécheurs, nous sommes limités dans notre connaissance. Un jour, Dieu voulant, lorsque nous sommes maintenant avec Dieu au ciel pendant l'éternité, je dois dire que nous allons continuer à apprendre, même dans un état glorifié, sans péché. Il faut dire que nous sommes ce que nous sommes. Dieu nous a créés, il nous a sauvés, mais nous ne serons jamais Dieu. Alors nous aurons toujours à apprendre de lui. C'est comme le soleil qui brille, et puis on voit la lune. La lune reflète la lumière du soleil, mais la lune n'est pas le soleil. Et sans le soleil, la lune n'a pas de lumière. Parfois, on regarde pendant certaines saisons et on dit, oh, la lune brille. Mais ce que nous voyons, c'est une réflexion du soleil sur la lune. Sinon, la lune n'a aucune lumière en elle-même. Et c'est comme ça nous sommes. Quelque lumière que nous avons, c'est à cause de la révélation de Christ en nous. Mais on ne peut jamais dire que nous avons appréhendé tout ce qu'il y a à connaître, à savoir concernant Dieu. Il est infini. Si on pouvait comprendre Dieu, de deux choses l'une, soit que Dieu n'est plus Dieu, ou bien nous ne sommes plus l'homme. Mais nous savons que c'est un mystère. Et notez bien, c'est appelé le mystère de la piété. Cela veut dire de la manière de révérer Dieu à travers cette vérité. Il n'y a qu'un seul révérend. J'espère que vous n'allez jamais prendre ce titre pour vous-même. Je sais que les hommes aiment appeler les hommes révérends, mais il n'y a qu'un seul révérend. Ça, c'est le sens du mot piété. Celui qui est digne d'être adoré. Ça, c'est le sens du mot révérend. Alors, quand les gens veulent attacher ce titre à nous, nous devons refuser, dire non. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Mais le mystère de la piété est grand. Cela veut dire de la manière d'adorer Dieu, de craindre Dieu. Ce mystère est grand. Maintenant, ça définit ce mystère. Ça commence par l'incarnation de Dieu, de Christ, si vous voulez. Celui qui a été manifesté en chair. Cette traduction est un peu faible parce que dans l'original, c'est écrit non seulement celui qui a été manifesté en chair, mais Dieu a été manifesté en chair. Ceux qui ont traduit cette version de la Bible, Louis Segond, n'ont pas mis exactement comme c'est écrit dans l'original. L'original dit « Dieu a été manifesté en chair ». Voilà le mystère. Et nous parlons de cela souvent en disant « Oui, Dieu a été manifesté en chair », mais imaginez ce que cela comprend. Dieu qui est infini est venu en chair et a marché parmi les hommes. Si vous regardez dans Jean chapitre 1, vous allez voir cela décrit là. Jean commence dans le verset 1, où il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Alors, voilà la divinité. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et comment nous comprenons que la parole s'agit de Christ? Voilà le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Ce mot « habiter », c'est le mot « tabernacle ». Donc, si on pouvait inventer ce mot pour décrire, c'est comme on dit « elle a tabernaclé parmi nous ». Alors, ça nous ramène encore dans l'Ancien Testament où il y avait le tabernacle et il y avait le camp d'Israël tout autour. Et ce tabernacle représentait la présence de Dieu parmi son peuple. Et c'est une image, c'est typique, c'était prophétique de Dieu dans la chair. Toute la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament résidait dans ce tabernacle, comme toute sa présence résidait en Christ. Ouais, cet homme qui marchait sur la terre à l'époque, c'était Dieu dans la chair. Ça, c'est quelque chose que l'homme ne peut jamais imaginer. Même ceux qui le voyaient au premier siècle, quand il était sur la terre, il ne voit qu'un seul, un simple homme. Et c'est pourquoi d'autres s'opposaient. Ils disaient, mais nous connaissons ton père, nous connaissons ta mère, tes frères, tes sœurs. Comment ça fait que toi, étant un homme, tu te fais l'égal avec Dieu? Mais ça, c'est le mystère de la piété. C'est de cette manière que Dieu se révèle à ceux qu'il est venu sauver. C'est à travers la personne de Christ manifestée en chair. Et puis, c'est écrit, deuxièmement, justifié par l'Esprit. Le mot justifié veut dire de juger quelqu'un comme étant juste. Et nous savons que tout ce que Christ a fait, il a fait par l'Esprit de Dieu en lui. En lui était toute la divinité. Et l'Esprit de Dieu témoignait à travers non seulement les paroles de Christ, mais aussi ses œuvres, et même sa mort, qu'il était effectivement le Christ, le Sauveur, le Seigneur. Ça, c'est souligné surtout par l'apôtre Paul ailleurs dans son épître aux Romains. Si vous regardez dans Romains chapitre 1, vous voyez ici le sens que Christ a été justifié par l'Esprit. C'est écrit dans Romains chapitre 1, le verset 1, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, notez, selon l'Esprit de sainteté, ou bien selon le Saint-Esprit, comment ? Par sa résurrection d'entre les morts. Alors, si nous comprenons cela, nous voyons qu'il est venu comme ça a été prophétisé et que toutes les prophéties des Saintes Écritures concernent le Seigneur Jésus, né de la postérité de David selon la chair, mais notez, déclaré, il n'est pas devenu fils de Dieu lorsqu'il est né dans ce monde, il était le fils de Dieu. Il est devenu fils de l'homme en prenant la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance. Cela veut dire non seulement en ce qu'il accomplissait dans sa vie lorsqu'il était vivant, mais à travers sa mort. Sa mort n'était pas comme nous mourons. Il n'est pas mort parce qu'il était pécheur, non. Il est mort comme le substitut. Et c'était une justice rendue afin que Dieu soit juste tout en justifiant ceux pour qui il est mort. Et on peut se demander alors, mais comment nous savons réellement que Christ a accompli la justice de Dieu à travers sa mort? Voyons la suite. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté. Comment? Par sa résurrection d'entre les morts. Christ n'aurait jamais ressuscité si ce n'était qu'il a accompli effectivement tout ce que le Père lui a donné d'accomplir pour le salut de ce peuple que le Père lui a donné. Dans Romains chapitre 4 et le verset 25, c'est écrit « Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Alors, il est mort pour les offenses. S'il a vraiment payé la dette, donc, par la suite, il reçoit la récompense, la récompense de sa mort, c'est la vie. Il est ressuscité. Le mot pour là veut dire à cause de notre justification. Il ne restait plus rien à faire pour le salut des pécheurs que Christ n'a pas déjà accompli à travers sa mort. C'est fini. C'est pourquoi Christ a crié d'une voix forte avant de rendre son âme à son Père. Personne n'a pris la vie de Christ. Lui-même, il a donné sa vie. Et il a dit, tout est accompli. Tout ce qui est écrit dans les prophéties à son sujet est accompli. Tout ce que la justice de Dieu exige pour le salut d'un pécheur est accompli dans l'œuvre de Christ. Alors, sa résurrection, c'est une déclaration par l'Esprit Saint que tout est accompli. Alors, c'est ça qui est notre espérance. Alors, revenons dans 1 Timothée 3, le verset 16, ça c'est le sens du mot « justifié par l'Esprit ». Christ a dit, il ne rendait pas témoignage de lui-même, mais tout ce qu'il disait était selon ce que le Père a déjà approuvé. Ouais, son témoignage est vrai. Alors, justifié par l'Esprit, tout ce qui est révélé concernant Christ ici dans les Écritures, ce que nous sommes en train de lire, c'est le témoignage de l'Esprit. Alors, c'est pourquoi la foi en Christ, c'est l'Esprit qui doit donner cette foi. Autrement, l'homme ne croirait jamais. Alors, justifier, qu'est-ce qui justifie le témoignage de Christ? C'est le témoignage de l'Esprit à son sujet. Et puis, c'est écrit « vu des anges » à travers son humiliation lorsqu'il était sur la terre. Ça commençait par l'annonce des anges, sa naissance. Et lorsqu'il était dans le jardin, avant d'aller à la croix, les anges sont venus le soutenir dans sa souffrance. Et à sa résurrection, lorsque les disciples sont allés à la tombe et ils ont vu que c'était vide, surtout d'abord les femmes qui sont allées, il y avait des anges qui annonçaient qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité. Et lorsque Christ est ascendu au ciel, il y a les anges, lorsque les disciples étaient sur le mont en train de regarder vers le ciel, il y avait des anges qui leur ont dit que ne pas rester là en regardant vers le ciel, que ce même Jésus qu'ils ont vu partir reviendra de la même manière, mais d'aller rester à Jérusalem et attendre la puissance du Saint-Esprit qui allait maintenant rester sur eux, et de là, ils iraient dans le monde annoncer l'Évangile partout, commençant par Jérusalem. Alors, vu des anges, et prêcher aux gentils, prêcher aux nations, ça c'est un point que jusqu'à ce que Christ est venu et il est mort et ressuscité, ascendu, la plupart de la prédication était donnée à Israël, les Juifs selon la chair. Mais dans le plan de Dieu, il a toujours ordonné depuis l'éternité que l'Église soit une assemblée de Juifs et de Grecs. C'est pourquoi le mot « monde » est utilisé dans la Bible quand il s'agit de Christ étant le sauveur du monde. Cela ne veut pas dire qu'il est venu sauver tout le monde, mais il y a des pécheurs dans le monde, partout dans le monde, qui sont les élus de Dieu, sans distinction de race. Ouais. Il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des Américains, il y a des Africains, il y a des Européens, il y a des Asiatiques. Oh, tout ceux-là que Dieu a choisi dans le monde font partie de cette Église. Alors, c'est pourquoi Dieu ordonne que l'Évangile soit prêché aux gentils, prêché au monde, ouais, et cru dans le monde. Les Juifs de qui Christ est venu, il était un Juif, il était fils de David, mais ceux-là, aujourd'hui, sont aveuglés. Mais cela ne change pas la vérité que Dieu a un peuple dans le monde. Et comment est-ce que nous pouvons connaître ce peuple? C'est ceux qui croient dans le monde. La croyance est une œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas en train d'aller évangéliser afin d'essayer de convaincre des hommes de croire en Christ. Non. La croyance, quand c'est écrit ici, crue dans le monde, est une œuvre de l'esprit, le même esprit qui justifie que Christ est le oint de Dieu. Il est le sauveur, il est le rédempteur, il est celui à qui le Père donne toute la gloire. Et cela est cru dans le monde. Et puis élevé dans la gloire. C'est où Christ est maintenant. Il est élevé dans la gloire et il est assis là afin d'intercéder, être l'avocat pour tous ceux pour qui il a versé son sang. Alors ça, c'est vraiment dans une petite partie de la Bible. C'est la somme, c'est le résumé de l'œuvre de Dieu dans le monde. Il a un peuple qu'il a élu. Et c'est pour ce peuple que Christ est venu dans le monde. Et il a versé son sang. Il a accompli tout ce qui est nécessaire pour le salut de son peuple dans le monde, qui est appelé ici l'Église ou la maison de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est un peuple. Ce n'est pas un bâtiment. Et tout est fondé sur Christ et Christ crucifié, mais aussi ressuscité et glorifié. Et c'est en lui, alors, que ceux qui lui appartiennent ont tout leur salut. Je vais m'arrêter là, et si le Seigneur dirige qu'il y a quelques points à souligner parmi vous, alors c'est le moment.
Oui, allô, pasteur, oui.
Salut.
Pasteur.
Oui, oui. Vas-y.
Bienvenue.
Si.
Voilà, vraiment, moi je remercie le Seigneur pour cette étude qui nous fortifie et qui nous éclaire. Effectivement, quand on lit les Épîtres de Paul, on se rend compte aujourd'hui véritablement qu'est-ce que c'est que vraiment la véritable Église. Et cette Église qui est fondée vraiment sur Dieu, le vrai Dieu vivant. Parce que dans le monde aujourd'hui, on entend beaucoup des gens, ils disent, peut-être par ignorance, ils disent « je vais à l'Église ». Ça, c'est pas faux. Alors, donc souvent, quand on était dans la religion, on voyait les pasteurs, ils appelaient au cours de leur croisade, si on peut parler ainsi, et ils disaient dans les assemblées, tout ça, le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va descendre, le Saint-Esprit va descendre. Comme si c'était à eux de faire appel au Saint-Esprit.
Ouais.
Alors là, quand on lit là, ça m'est venu à l'esprit, quand je t'ai écouté, effectivement, c'est vrai que les enfants de Dieu qui sont régénérés, nés de nouveau, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, tous les véritables enfants de Dieu ont le Saint-Esprit en eux. Voilà, donc ce n'est pas le pasteur qui doit distribuer le Saint-Esprit ou bien de passer à prière.
C'est ça.
Faire en sorte que le Saint-Esprit rejaillisse sur tous les membres de l'Assemblée.
Ouais.
Et ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Et puis, le deuxième point, quand on parle souvent du mystère caché, voilà. Quand on parle du mystère qui est vraiment caché, on le voit aussi dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 7, où l'apôtre Paul parle effectivement de ce même mystère en faisant la dissection de l'évangile que lui prêche. Il dit qu'ici, que nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée,
ouais,
que Dieu avait prédestinée, wow, avant les siècles pour notre gloire. Voilà. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà. Donc, ce mystère qui est caché, qui est effectivement Jésus-Christ, le Seigneur nous l'a révélé par sa grâce. On reconnaît que le Seigneur, Dieu n'a pas tout révélé. Mais il a révélé pour ce qui est nécessaire pour notre salut, qui est Jésus-Christ, que dans les cieux, nous comprendrons d'autres choses qui ne nous ont pas été révélées ici-bas. Mais ce qui est nécessaire, c'est Jésus-Christ qui nous a révélé. Et il nous révélera encore d'autres choses très importantes.
Non, c'est bien, bien souligné, surtout le verset clé dans 1 Corinthiens 2, 7. Ça dit tout, n'est-ce pas? Et j'apprécie ça beaucoup parce que c'est les Écritures qui expliquent les Écritures. Et vraiment, un mystère, c'est quelque chose caché aux hommes. Et si Dieu ne révèle pas cela au cœur, aucun homme ne pouvait connaître ce mystère. Et c'est pourquoi les hommes restent toujours dans les ténèbres. La seule raison pour laquelle nous, ici, rassemblés ou ceux qui sont de Dieu dans le monde connaissent Christ en vérité, c'est parce qu'il a plu à Dieu de révéler Christ en nous. Autrement, on serait toujours en train de suivre la même voie que les autres. Alors, vraiment, bien souligné. Merci, frère. Koulibaly, vas-y.
Oui, mon frère, vraiment, je suis très, très ravi des explications vraiment que vous avez dites aujourd'hui. Je vois que vous êtes rentré dans le mystère même des mystères. Alors, tout a été clarifié et je n'avais jamais compris le mystère réellement aussi de cette façon. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour cela. Et j'ai vraiment à vous dire que j'arrive maintenant à comprendre qu'il y a une différence entre les chrétiens et les soi-disant chrétiens.
Oui.
Parce que quand j'ai vu le verset 14, alors dans la maison de Dieu, alors le vrai chrétien, c'est en s'appuyant entièrement sur Jésus-Christ et en Jésus-Christ qu'il fait la volonté de Dieu. Et il doit être aussi dans la soumission de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, une soumission au Saint-Esprit, parce que la colonne, je crois que c'est le signe du Saint-Esprit. Alors c'est en appuyant vraiment sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié et dans le respect de l'Esprit de Dieu que vraiment on se comporte bien dans la maison de Dieu. Alors j'ai eu à penser à ce penseur-là, alors qu'il a dit que vraiment il y a deux sortes de disciples de la piété. Et celui qui pratique mal la piété, celui qui pratique dans la justice la piété. Alors le chrétien, c'est quelqu'un qui pratique la justice, la piété dans toute sa vérité, c'est-à-dire c'est le Christ et le Christ crucifié, et en Christ seulement. Et celui qui est soi-disant chrétien, alors il pratique vraiment la piété, alors dans l'ignorance. C'est pour cela que j'ai vu réellement au Mali, j'ai été étonné de voir au Mali réellement comment on parle du Saint-Esprit. Alors, c'est devenu quelque chose de gloire. Le Mali n'est même pas un pays chrétien, mais avec ceux qui disent du Saint-Esprit, ceux qui font du Saint-Esprit quand tu rentres dans les églises là-bas, il y en a plein maintenant. Alors, voilà pourquoi le message, vraiment, que le Seigneur vous bénisse.
Amen.
Je serais très ravi, mais ça m'a clarifié,
ouais.
Ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur ça. Que le Seigneur vous bénisse, il faut être bref. Merci.
Merci, et évidemment, ça c'est la preuve de l'œuvre de l'Esprit en nous. Lorsque la parole est prêchée et surtout Christ exalté et nous arrivons étant des pécheurs à le connaître davantage et à nous soumettre. Ouais, marcher dans la piété n'est pas de marcher selon nos œuvres, c'est de marcher dans cette œuvre accomplie par Christ au calvaire. Donc bien bien souligné. Alors entre Pichin et Aurélien, je ne sais pas s'il y a d'autres points à souligner.
Oui, je disais que, oui, je voudrais
Aurélien
exprimer vraiment toute ma gratitude à Dieu pour ce mystère que vous venez de développer. En réalité, par rapport à l'Église, c'est vraiment là le mystère de la piété qui est grand. Et il n'y a aucune institution, aucun critère, aucune organisation qui doit contredire ce mystère. C'est pourquoi je faisais remarquer la semaine passée que l'apôtre, en parlant des qualités, n'est pas en train d'énumérer des critères à adopter pour être comment, évêque, diacre, femme ou jeune dans l'Église. Chacun dans son rôle, chacun dans son rôle doit se référer réellement au mystère de la foi qui est révélé au sein. Et c'est dans ça que tout le monde voit la qualité des qualités qui nous permet de vivre en tant que colonne et appui de la vérité dans l'Église. Donc, c'est une conduite. L'évêque est là pour être un modèle des diacres et des autres membres. Et dans ce sens, les diacres et les autres membres se réfèrent aux mêmes qualités, à l'œuvre excellente que le Seigneur révèle à ses saints. C'est pour cela que l'apôtre parle non pas d'un homme qui ne doit pas avoir plusieurs femmes, mais plutôt de mari à une seule femme. C'est l'Église, le pasteur n'est pas l'Église. L'évêque n'est pas l'Église, le diacre n'est pas l'Église, mais c'est l'ensemble. Il constitue une seule épouse, une seule maison, une seule colonne, une seule appui de la vérité qui est révélée à chacun des membres. Donc, on ne doit pas prendre un critère ou bien une qualité qui est réservée à un individu dans l'Église, mais c'est une qualité qui se réfère à Christ seul, et tout le monde doit aspirer à cela, à cette œuvre excellente, mais révélée seulement au sein. Donc, quand l'homme ne se voit pas, même si c'est la femme ou un serviteur simple de l'Église ou un diacre dans son rôle, ils doivent se voir dans la personne et l'œuvre de Christ telle que révélée dans les Écritures comme et mari d'une seule épouse. Et chaque femme aussi doit se voir à travers ce Christ quand il regarde les hommes. Et chaque membre doit se voir à travers le Christ quand il regarde les responsables. Et les responsables doivent se voir à travers ce même mystère révélé, le Christ. De sorte que c'est tout cet ensemble-là qui est sous un ordre que le Père vient de définir.
Un moment, Amélie.
L'ordre est établi dans les...
Aurélien parle.
L'ordre est établi quand tout le monde se réfère à la gloire de Dieu manifestée en Christ. De l'évêque jusqu'au dernier membre, même les femmes ne sont pas là à voir le mari ou bien le diacre, mais voir ce que le mari et le diacre et même l'évêque est en train de voir par la foi qui est révélée à tous. Et ainsi, il s'agit donc d'une qualité spirituelle qui doit se manifester en chacun, et chacun doit jouer son rôle dans l'Église en se référant à cette qualité-là. Donc, c'est pour cela, en réalité, que l'apôtre est en train de conclure ici, par exemple, en disant, sans contredit, le mystère de la piété. Qui qu'il soit, s'il doit être vraiment ordonné, soumis à Christ, ce serait à travers ce mystère. Et ça ne doit, l'acte retour n'est pas possible. Ça ne doit pas, l'homme ne peut pas créer ce mystère. Mais l'homme doit se référer à ce mystère quand il est révélé. Et c'est cela qui est prêché. Il y avait Jésus-Christ dans la chair, mais ceux qui ne voyaient pas le Dieu loin ne vivaient pas ou bien ne se soumettaient pas à la foi. À la résurrection de Christ, Jésus-Christ a été déclaré Dieu, et c'est seulement ceux qui sont rentrés dans la révélation de ce mystère qui constitue l'Église de Dieu, et ils vivent ensemble pour soutenir cette vérité-là. Donc, nous ne voudrons pas comparer les religions d'aujourd'hui avec les soi-disant églises et les hiérarchies qui y sont instituées avec des critères humains pour croire que c'est l'assemblée spirituelle qui accomplit l'œuvre de Dieu. Mais nous devons réellement soutenir, prêcher l'évangile et que Christ serait réellement le qui dirige la conduite et qui permet à tout le monde d'avoir une conduite réellement ordonnée à l'image de Jésus-Christ qui est réellement le berger, le fidèle berger dont nous sommes les... qui est notre modèle, qui est notre référence. Ah, voilà, ouais. Ce que je veux, ouais, un peu appuyer par rapport,
c'est bien,
à ce dernier verset qui en réalité conclut l'ensemble de l'esprit de l'apôtre Paul quand il est en train de parler des différents rôles de l'Église.
C'est ça. Merci bien, frère. C'est un bon résumé. Oui, effectivement, si on voit des gens qui se disent brebis du Seigneur, mais ils ne suivent pas le Christ de la Bible, donc on ne peut conclure autrement que ceux-là ne sont pas à Christ. Il y a des gens qui sont là, qui suivent des hommes, qui se disent brebis, mais Christ seul connaît ceux qui lui appartiennent, et ceux-là sont les pécheurs pour qui il est venu dans le monde. Alors, ça commence avec Christ, ça finit par Christ, et toute la gloire lui revient. Quand j'écoute un homme prêcher, il ouvre la parole de Dieu, mais si il prend cette parole pour prêcher autre chose que Christ est crucifié, ce n'est pas un serviteur de Dieu. C'est ce qui nous distingue, nous qui sommes présentement en train d'apprendre la parole de Dieu, qui nous distingue de d'autres prédicateurs dans le monde, parce que il y en a plein. Mais comment on peut savoir ceux qui sont véritablement à Dieu? C'est qu'il n'y a qu'un seul message, comme Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Et à nous, puisque Dieu, par son esprit, a révélé ce Christ à nous alors d'être cette voix dans le désert aujourd'hui qui annonce ce même Christ, l'agneau de Dieu. Nous n'avons qu'un seul sujet, l'agneau de Dieu. Et je peux vous dire, à travers les années que je prêche, il y en a qui viennent et qui disent, mais tu n'as pas d'autre message? Chaque fois, on ouvre la Bible, c'est Christ, c'est Christ, c'est Christ. Effectivement. Parce que il est la parole de Dieu. Ouais. Et non seulement la parole qui est venue en chair, mais la parole inspirée, la parole révélée, il est la parole. Toute l'éternité, ceux qui sont là seront ceux qui ont été rachetés par son sang. Et notre chanson, durant le chant que nous allons chanter, c'est « L'agneau est digne, celui qui est immolé, digne de la gloire, l'honneur, sagesse. » Et je dis souvent, beaucoup parlent du ciel aujourd'hui, mais ils n'iront pas. Et d'abord, ils ne seraient jamais contents d'être là, parce que la gloire n'est pas à l'homme, c'est à Christ. Bien, bien dit.
Frère Aurélien, vraiment, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. Vraiment, Christ, c'est la référence. Christ, c'est tout, vraiment. Voilà. Merci pour cette intervention.
Là, tu m'attends, non?
Oui, merci. C'est pour rendre grâce à Dieu. C'est vraiment Christ, la référence, merci. Pour tous les membres.
Ah ouais.
C'est très bien.
Ouais.
C'est très juste.
Alors, Pichin, rien à ajouter pour le moment?
Oui, c'est pour le monsieur, tout le monde. Je reçois beaucoup d'enseignements et ça m'apporte beaucoup de choses, quoi. C'est maintenant, je reconnais que je suis dans la réalité maintenant, puis j'ai pris au Seigneur de me guider chaque fois pour pouvoir supporter tout ce qui se passe autour de moi aussi. Ouais. J'ai pris au Seigneur de les expliquer aussi ce que je puisse, pour qu'ils aussi puissent comprendre ce qu'on m'enseigne ici aussi.
Voilà.
Chaque fois, j'essaie de causer avec eux sur ça aussi. Donc, j'ai pris, c'est Dieu qui change. Comme il me l'a fait, il peut le faire aussi. C'est lui seul qui change, c'est lui seul qui enseigne. Bon,
amen.
Je peux te les enseigner aussi.
Amen. Amen. C'est vraiment encourageant. Bien, mes frères, passez une bonne semaine. Je vais, pour les coupures, je vais nettoyer un peu l'enregistrement et puis mettre ça aussi sur l'Internet. Là, vous pouvez en profiter de réviser et puis aussi de partager avec d'autres. Nous sommes en train de vraiment semer cet évangile à travers ces cours, semer ça dans le monde entier. Et je remercie le Seigneur, c'est lui qui dirige là où il veut que cette sémence soit semée. Mais je remercie le Seigneur pour ce contact toujours. Ça me fait du bien d'avoir cette fraternité avec vous. Il faut dire que aux États-Unis, ici, je suis souvent seul. On peut peut-être imaginer qu'il y a beaucoup de prédicateurs ici qui prêchent l'Évangile, mais ce n'est pas le cas. Je suis dans une ville de quelques 300 000 personnes ici, mais je ne connais aucun autre prédicateur ici avec qui je peux avoir une fraternité dans cet Évangile. Il faut que j'aille dans le monde pour avoir ça avec vous, ouais. Mais c'est comme ça que Dieu l'a voulu, et c'est lui qui fait son œuvre. Et je remercie le Seigneur pour cette œuvre en chacun de nous. Alors, passez une bonne semaine. Je vais essayer de rejoindre les frères maintenant au Malawi qui m'attendent, et priez toujours pour moi comme je prie pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse dans le champ où il vous a placé. Voilà.
Amen. Voilà.